Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va ouvrir la parole dans le livre des Actes. Actes chapitre 4. On va se pencher ce matin sur un récit de guérison que l'on trouve dans le livre des Actes. Dans ce récit, les apôtres Pierre et Jean, remplis de la puissance du Saint-Esprit, guérissent un boiteux de naissance. Visiblement, pour Luc, l'auteur du livre des Actes, cette guérison a une grande importance, puisqu'il y consacre deux chapitres de son livre, les chapitres 3 et 4. Et si vous lisez attentivement ces textes, vous observerez que ni Luc ni Pierre ne mettent l'accent sur une guérison, mais ils mettent l'accent sur le nom de Jésus. Aussitôt après cette guérison, Pierre prêche à la foule qui l'entoure le nom de Jésus qui a guéri le malade et la résurrection de Jésus. Les sacrificateurs, considérant que l'enseignement du peuple était leur droit exclusif, sont furieux. Ils sont furieux d'apprendre que Pierre prêche à la foule. Quant aux Sadducéens, considérant que l'enseignement du peuple était leur droit exclusif aussi, mais qui ne croient pas en la résurrection des morts, ils manifestent eux aussi leur opposition à la prédication de Pierre. Non seulement ces chefs religieux ne voient pas dans cette guérison une grâce de Dieu, mais ce qui leur est insupportable, c'est le nom de Jésus. Pensant faire cesser ce témoignage, ils font emprisonner Pierre et Jean. On pouvait donc craindre à ce moment-là que l'œuvre de Dieu serait entravée par une telle opposition. Mais qui pourrait empêcher l'œuvre de Dieu? Qui peut empêcher l'œuvre de Dieu? Il est dit dans la parole, « Sa parole n'est pas liée et ne peut être anéantie. » Comment l'opposition des chefs religieux juifs pouvait-il arrêter la progression de l'Évangile? Elle est, cet Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Déjà, on voit au chapitre 2 des Actes, 3000 personnes qui avaient été ajoutées à l'assemblée de Jérusalem. Et ici, au chapitre 4, en ne comptant que les hommes, on dénombrait environ 5000 croyants. Plus loin, dans le livre des Actes, il est même parlé de la multitude de ceux qui avaient cru. Et qui pourrait aujourd'hui, en ce jour, dénombrer ceux qui ont cru à l'Évangile et qui constituent ensemble le peuple de Dieu sur terre, l'Assemblée des saints? Que dire de tous ceux qui, depuis ces premières prédications et pendant 20 siècles, ont cru à cette parole du Seigneur? Il est dit en Jean chapitre 5, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors le lendemain de leur arrestation, Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin, conseil et tribunal suprême du peuple juif, composé d'environ 70 personnes, 70 membres. Les principaux responsables de la condamnation à mort du Seigneur, quelques mois auparavant, ils sont là, sont les mêmes. Ils avaient condamné Jésus à mort injustement. Ils l'avaient livré à Pilate. Et même dans la parole, on voit qu'ils avaient soudoyé les gardiens du sépulcre pour qu'ils mentent au moment de la résurrection de Jésus. Et nous retrouvons Anne et Caïphe, les membres influents de ce tribunal, ils sont devant eux. Alors, le Sanhédrin avait pour mission de protéger la foi juive, ce qui impliquait de passer au crible tout nouveau prédicateur ou enseignant qui émergeait dans le pays. Il avait, ce Sanhédrin, bien sûr, le droit de surveiller les agissements de l'Église, mais pas d'arrêter des innocents et de refuser d'examiner honnêtement les éléments de preuve. La question des responsables juifs est légale, mais voilà qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de reconnaître qu'un miracle a bien eu lieu. Ils sont évasifs et se contentent de désigner cette guérison par ceci ou cela. Et on perçoit aussi leur mépris pour les apôtres. Leur question pourrait être paraphrasée par « Où donc des gens ordinaires tels que vous ont-ils bien pu trouver la puissance et l'autorité d'accomplir un acte tel que celui-ci » Et ils ne peuvent pas nier la guérison du boiteux. Ils posent aux apôtres la seule question utile à la mise en évidence de la vérité. Par quelle puissance et au nom de qui ? Et au nom de qui avez-vous fait ceci ? Et la question est à nouveau, au nom de qui ? Alors lisons Actes, chapitre 4, au verset... On va commencer au verset 7 jusqu'au verset 12. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre, rejetée par vous, les bâtisseurs, et devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette déclaration de l'apôtre Pierre, « Il n'y a de salut en aucun autre », résonne haut et fort encore aujourd'hui. Amen. Le climat religieux dans le monde aujourd'hui, vous savez, il est à l'universalisme, la tolérance. Si vous avez visité en Inde, au bord du Gange, certains temples hindous voués au culte de Ramakrishna, vous y apercevrez non seulement des images de celui-ci ou du Bouddha, mais encore celles de Moïse, de Mahomet et du Christ. Tous ces personnages sont honorés avec un égal respect en tant que fondateurs de religions. L'Inde et ses religions offrent aux curieux l'exemple le plus parfait de la tolérance religieuse. Dans ce climat, le nom exclusif de Christ ne peut être ressenti que comme une offense. À côté de l'universalisme, s'est développé dans notre Occident de plus en plus sécularisé ce que l'on appelle l'individualisme, qui se dit lui aussi très tolérant. Mais sa vision du monde est-elle aussi tolérante qu'il le prétend ? Car l'individualisme, c'est d'un côté laisser chacun définir librement sa propre vérité, sa propre moralité, sa propre sexualité, et de l'autre, rejeter toute autre vision du monde, à commencer par, bien sûr, la vision chrétienne d'un seul Dieu et d'un seul Sauveur, Jésus-Christ. Dans ce climat à la fois universaliste et individualiste dans lequel nous vivons, la déclaration de Pierre passe mal. Il n'y a de salut en aucun autre. Le nom du seul Dieu. Lisons Actes 3, chapitre, versets 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure, donc 3 heures de l'après-midi, d'après mes calculs. Il y avait un homme boiteux d'essence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ça paraît normal. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous !» Ah bon. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous vous rendez compte ? Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et bien sûr, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous vous rendez compte ? Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Les membres de Sanhédrin devaient avoir aperçu maintes fois ce mendiant, et peut-être lui avait-il fait l'aumône aussi, et peut-être avait-il prié pour lui aussi, ostensiblement. Puisque cet homme devait être porté, vous vous rendez compte, il n'est pas seulement boiteux, il était impotent, paralysé, et cela dès le sein de sa mère. Il n'avait jamais marché. Et un autre, il était indigent et réduit à mendier. Les disciples ne sont pas indifférents à son infortune. Sans répondre directement à la demande du malheureux, les deux disciples regardent avec compassion. « Regarde-nous !» lui dit Pierre. « Regarde-nous !» Bien sûr, l'indigent malade le regarde. Il regarde ses étrangers et il s'attend à une aumône. Mais Pierre lui dit « Lève-toi et marche !» Comment cet homme bien connu avait-il été guéri ? Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette réponse doit avoir profondément heurté les membres du Sanhédrin. Ils pensaient bien sûr en avoir fini avec le prophète nazaréen. Et voici que ses disciples prétendaient partout qu'il était vivant. Vous vous rendez compte ? Mais l'Esprit Saint dit à Pierre, son argumentation, et l'apôtre cite le verset 22 du psaume 118, une référence messianique incontestable. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Pierre affirme clairement que les membres du Sanhédrin sont les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et vous savez, l'image de la pierre n'est pas neuve pour ces hommes qui sont des experts de l'Ancien Testament. Ils savent que le rocher symbolise Dieu et que le prophète Daniel a utilisé une pierre pour désigner le Messie et la venue de son royaume sur terre. Chapitre 2 du livre de Daniel, au verset 44 et 45, il est dit « Dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Les Juifs, ils ont trébuché sur le roc et l'ont rejeté, comme l'avait annoncé le psaume 118. Toutefois, pour ceux qui ont cru en lui, Jésus-Christ est devenu la précieuse pierre angulaire, la pierre de l'angle. C'est ce que nous dit Pierre dans sa première épître, au chapitre 2. Approchez-vous de lui, pierre angulaire, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous, pour toi qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent, pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est peut-être ce qui est si saisissant dans les paroles que Pierre a adressées aux dirigeants et aux anciens de Jérusalem en acte 4. Pierre excluait toutes les options possibles d'accéder à Dieu, à la vie, au salut, en dehors de Jésus-Christ, son Fils, Dieu incarné. Il dit en acte, au verset 4, verset 12, « Le salut ne se trouve à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le deuxième point du message, c'est le nom du seul sauveur. L'affirmation de Pierre au sujet de Jésus était familière au peuple juif, aux juifs, le peuple de Dieu. L'exclusivité du salut en Jésus-Christ que Pierre affirmait n'était en rien différente de l'exclusivité que Dieu revendiquait dans sa relation avec son peuple dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième commandement, par exemple, Dieu interdisait à son peuple toute représentation des choses qu'il a créées, toute idolâtrie, tout faux Dieu, comme ceux qu'adoraient les peuples autour d'Israël. Il est dit en Exode, chapitre 20, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dans sa relation avec nous, il exige qu'aucune place ne soit accordée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre que lui. Car lui seul est Dieu, Créateur, Seigneur et Sauveur. Il nous donne tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. En retour, nous lui devons tout ce que nous avons et tout ce que nous le faisons pour lui. De même, Dieu n'accorde aucun moyen de salut autre qu'en lui-même. Lui seul est capable de sauver. Dieu l'a maintes fois prouvé aussi à Israël. Par exemple, on le voit dans la parole de Dieu, lors de la séparation des eaux de la mer Rouge, lors du passage du Jourdain et de la défaite des ennemis, de ses ennemis. Et malheureusement, il leur en a donné encore la preuve à de multiples reprises lorsqu'il a permis qu'ils soient presque complètement détruits après qu'ils eurent cherché leur délivrance auprès d'autres dieux et d'autres nations. Pierre affirme clairement ici que Jésus, seul le Fils de Dieu, Dieu incarné, est capable de sauver. Pour Pierre, cette grande vérité signifie qu'il est absolument nécessaire que nous mettions notre confiance en Jésus-Christ seul. Ce que Pierre cherche à démontrer, c'est que si la relation entre Dieu et Jésus-Christ est si intime, c'est parce qu'ils sont un seul et même Dieu. Il est dit en Jean chapitre 10, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus. Pierre ne voulait pas que les Juifs de son époque s'imaginent qu'ils pouvaient être en relation avec Dieu ou obtenir le salut en dehors de Jésus-Christ. Il ne voulait pas non plus que les Juifs de son temps s'imaginent que les chrétiens affirmaient que Jésus était un autre Dieu. Il n'y a pas d'autre nom, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus est le seul Dieu. Pierre voit dans la guérison du mendiant l'image de la guérison spirituelle qui accompagne le salut. Guéri, au verset 9, correspond au mot grec traduit par sauvé, au verset 12. Jésus-Christ est le grand médecin, le seul capable de guérir la pire des maladies de l'humanité, celle du péché. À ce moment-là de son apostolat, Pierre, dans ses discours, s'adresse exclusivement aux Juifs. Il est à Jérusalem, il s'adresse aux Juifs et à tout le peuple d'Israël. Et le psaume 118 qu'il cite évoque un futur salut national pour Israël. Vous savez, plusieurs chemins peuvent mener au sommet d'une montagne, mais il n'y a qu'un seul qui permet d'entrer au ciel. Il n'y a qu'un seul nom, qu'un seul chemin qui conduit au salut, Jésus-Christ. Tel est le noyau de l'Évangile, de l'exclusivisme de Pierre et de l'exclusivisme de l'Église chrétienne. Ce noyau n'est pas un message d'intolérance, mais de révélation. Seul Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés, effacer notre culpabilité et nous réconcilier avec Dieu. Vous savez, les autres religions ne peuvent se prévaloir d'un tel sauveur. Aucun fondateur de religion n'a donné sa vie pour mon salut personnel, pas plus que pour le salut et la réconciliation de l'humanité avec Dieu. C'est ce qu'écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc Pierre lance au Sanhédrin une invitation directe à se repentir et à embrasser Jésus-Christ comme sauveur. Il a déjà affirmé que la guérison du mendiant boiteux a été accomplie au nom de Jésus. Maintenant, il va plus loin et affirme qu'il n'y a de salut en aucun autre. Non seulement Jésus est l'unique source de guérison physique, mais il est également l'unique source de guérison spirituelle. La libération des effets dévastateurs du péché ne vient que par Jésus-Christ. Et Pierre n'invente pas cette vérité. Il ne fait que dire la même chose que son maître Jésus qui a déclaré en Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est notre Seigneur qui a revendiqué cette exclusivité à plusieurs reprises. Ainsi, il a déclaré, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » La parole de Dieu affirme qu'il n'existe que deux chemins vers le salut. Le chemin large du salut par les œuvres, qui mène à la perdition, et le chemin étroit de la grâce et de la foi en Jésus qui mène à la vie éternelle. Entrez par la porte étroite, nous dit le Seigneur, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile. Le message de Pierre aux Juifs de son temps. Et bien sûr, notre message aujourd'hui à notre génération. et que le courage de Pierre pour le proclamer nous encourage à nous aussi à suivre son exemple. Alors le troisième point du message, c'est le nom au-dessus de tout nom. L'histoire du nom de Jésus, ce n'est pas une histoire d'intolérance de la part des apôtres Pierre et Jean. C'est une histoire de guérison, de secours, d'amour, de salut, de bénédiction. Vous savez, au chapitre 3, Pierre se trouve à Jérusalem, dans la cour extérieure du temple. Il est entouré par une foule de juifs et de non-juifs qui a accouru vers lui après la guérison de ce boiteux. Vous avez renié le saint, il lui dit son message. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il parle de Barabbas au moment du procès. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Que dit Pierre ici? Vous avez choisi de préserver la vie d'un meurtrier et de faire mourir le prince de la vie, plus exactement en grec, l'auteur de la vie. Le psaume 36 appelle Dieu la source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36. Jean appelle Jésus le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et celui qui est lui-même la vie, qu'offre-t-il à ses ennemis, ses assassins? Le pardon. Le pardon est la vie. Jésus est la vie offerte par amour et grâce. Pierre dit à la foule, « Frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Dieu a envoyé vers vous son serviteur Jésus pour vous bénir. » Et Pierre conclut, « Aucun autre que lui n'a sacrifié sa vie pour offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. » C'est ce que Paul explique dans son épître aux Philippiens. Jésus s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce passage, Paul appelle les croyants à l'humilité et leur donne Jésus comme exemple suprême à imiter. Jésus ne s'est pas accroché à sa position d'égalité avec Dieu le Père. Il a quitté son rang, ses droits, ses privilèges au ciel pour devenir un serviteur humble et obéissant à son Père et mourir pour nous à la croix d'une mort atroce, ignominieuse. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé à la plus haute place d'honneur et de gloire dans les cieux et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, le nom qui affirme sa divinité et son autorité suprême. Ce nom, c'est Seigneur. Jésus est le Seigneur, souverain de l'univers, à la gloire de Dieu, le seul digne d'être adoré. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, puis s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous allons faire un peu d'eschatologie ici, et c'est-à-dire parler un peu des temps de la fin. Quand Jésus-Christ reviendra avec puissance, chaque créature de l'univers le reconnaîtra comme Seigneur de toute la création, comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout être vivant dans le ciel et sur la terre confessera que Jésus-Christ glorifié est Seigneur et l'adorera. Tous confessera son nom les fidèles dans l'Église, les anges fidèles, et même aussi tous ceux qui ont rejeté le Christ, les incroyants, les anges déchus. D'ici là, Jésus construit son Église et il nous a choisis pour être co-ouvriers avec lui dans cette œuvre pour la gloire de son nom. Alors soyons encouragés ce matin par Pierre à glorifier son nom dans nos cœurs et nos vies. En conclusion, la défense passionnée de Pierre n'a pas réussi à attendrir le cœur et les cœurs endurcis des membres du Sanhédrin. Mais elle a quand même eu un certain effet sur eux, car ils n'ont pas pu empêcher d'être impressionnés par l'assurance de Pierre et de Jean. Ils sont étonnés de ce que des hommes du peuple sans instruction, qui ne sont pas comme eux des théologiens professionnels, instruits dans les meilleures écoles rabbiniques, puissent se défendre si efficacement à l'aide des Écritures. Le fait que deux pêcheurs galiléens se défendent avec puissance devant l'imminente cour suprême juive est surprenant. Les membres du Sanhédrin ont probablement fini par se rappeler que les deux pêcheurs étaient deux apôtres de Jésus, qu'ils étaient présents avec lui dans le temple et à son procès, et qu'à présent, ses chefs religieux le reconnaissent. Pierre et Jean font la même chose que Jésus. Ils font des miracles. Ils déclarent, un miracle a été accompli par eux, nous ne pouvons le nier. Acte 4, verset 16, plus loin. Et comme les apôtres, Jésus a confronté courageusement et sans crainte les chefs juifs avec autorité et vérité. Il n'avait pas lui non plus de formation rabbinique formelle, mais il maniait les Écritures de l'Ancien Testament avec une assurance inégalée. Et il a fait beaucoup de miracles pendant son ministère terrestre. Or, Pierre et Jean sont maintenant jugés principalement à cause d'un miracle qu'ils ont accompli. Et la tentative du Sanhédrin d'interdire l'enseignement des apôtres leur a donné une occasion en or qu'ils ont saisi avidement pour proclamer l'Évangile. Et c'est ainsi qu'on doit affronter la persécution, en proclamant la vérité avec une pleine assurance. Voilà le message que nous prêchons et que nous enseignons dans nos églises et sur le champ missionnaire. C'est le message auquel nous sommes appelés à répondre, car il n'existe aucun autre message pouvant procurer la vie et le salut. Il n'existe pas d'autre message que celui-là, car il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Sauveur, il y a Jésus seul. Paul n'écrivait-il pas il y a 2000 ans que la mort du Christ, mort expiatoire pour effacer nos péchés, était un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais une puissance et une sagesse de Dieu pour sauver les appelés, les croyants. Tel est l'Évangile, celui prêché par Pierre. C'est en Jésus que Dieu a détruit définitivement la barrière qui nous séparait de lui. Nous pouvons dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il a livré pour nous. Aussi sommes-nous persuadés que rien ne nous séparera de son amour manifesté en Jésus-Christ. Le salut en Jésus seul. Ce n'est pas de l'intolérance. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu offre à chacun de nous ici présents. Et si vous ne l'avez pas encore saisi, ce message vous invite ce matin à le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ton nom. Merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es le seul Sauveur et le seul Seigneur, souverain de l'univers. Règne en nous, Seigneur. Règne sur nos cœurs et sur nos vies pour la gloire de ton nom. Amen.